Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'ai remarqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec Dessy, comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot. Timothée Mémon.
23h01, de retour dans l'after, la dernière heure, c'est jusqu'à minuit et on va parler de Première Ligue dans un instant avec Julien Laurence qui sera avec nous. On va parler également du Mercato Show, Valentin Jamin va venir nous donner les dernières infos de la rédaction RMC et puis il y aura évidemment le quiz de l'actu. Vous venez, vous mesurez à nous, c'est au 32-16 pour participer à ce quiz. Alors Jonathan, début d'émission, tu nous as interrogé sur quelque chose qui sortait du foot, mais après tout, pourquoi pas.
Ouais. Alors, quel est pour vous le meilleur film de la décennie,
Daniel?
Non, s'il faut recoller de 2010 à 2019, c'est un peu dur. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, qu'effectivement, depuis que tu l'as dit, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas trop à trouver autre chose de mieux. La Grande Bellezza, ça doit être un de ceux qui m'a le plus marqué dans cette décennie. Hein.
Damien. Bien.
Mais cette année, la décennie, elle a été marquée quand même par l'essor des séries où on trouve peut-être de meilleurs scénars qu'au cinéma dorénavant. Il y a eu des séries absolument formidables qui m'ont plus marqué que des films, alors que moi, très cinéphile pendant des années, les séries, ça voulait rien dire. Mais je dois bien dire qu'il y a eu un élan créatif à travers certaines séries qu'on n'a même pas retrouvé dans les films.
Et alors, série au triptyque.
Mad Men. Une série, c'est Mad Men. Pour moi, c'est indépassable tellement c'est fabuleux. Et Breaking Bad, quoi. Je vais en citer deux comme ça, quoi.
Sur la décennie. Damien.
Franchement, j'ai aucun avis sur la question. Moi, j'ai pas le temps pour regarder des séries, les gars. Regarder des films, je regarde que des matchs. Désolé.
Le match de la décennie. Ça, c'est important.
Le match, on l'a fait. Le match qui m'a le plus marqué, choqué, tout ce que tu veux, c'est le 7-1. En demi-finale, la Coupe du Monde au Brésil.
Ah oui, tu parles de l'équipe nationale, j'étais braqué sur les clubs, moi.
Ouais. Pour moi, c'est vraiment. Ça m'a marqué, ce match.
Ah, moi, le match, c'est OMOL, le 5-5. C'est en 2009, il me semble.
Mais OMOL, le 5-5, le film, La Grande Bellezza.
Il n'y a même pas de.
Et l'album.
J'aime bien les trucs de heavy metal que personne connaît, mais le dernier CD d'Architects. D'Architects, Holy Hell, ce CD est fabuleux.
Ah oui, album.
Très bien. Eh bien, voilà qui est dit. Ah, moi j'avais noté La Merveilleuse Histoire du Temps, qui retrace l'histoire de l'admirable Stephen Hawking avec Eddie Redmayne. C'est un très bon film. Il y a une apparition, c'est pas le meilleur moment, il y a une apparition de Frank Leboeuf, je vous le conseille. Non, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Oh. C'est surprenant.
Il joue un docteur.
D'abord, faut voir ce film parce que ce film est génial sur quelqu'un de génial.
S'il y a Franky.
Et faut le voir aussi pour Franky.
Il a une phrase en plus, non?
Ouais, il a une réplique, effectivement. Et puis j'avais noté comme album, alors c'est toute fin 2009, c'est The Resistance de Muse.
Non, ça marche
avec
pas.
Notamment
2009.
La Symphonie Exogenesis, mais justement, elle est sortie genre en décembre.
2010, voilà. Enfin bon, bref.
Voilà donc pour cette petite parenthèse culturelle. On va retrouver Julien Laurence qui est avec nous. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Salut Julien.
Meilleurs vœux à toi pour cette année. Débute
vous
en
aussi,
première
bonne
ligue.
Année, happy new year.
Bonne année, bonne année.
On va commencer, on va très rapidement revenir sur ce Liverpool-Sheffield. On va peut-être pas redire ce qu'on a redit. Le titre, c'est tout cuit.
Oui, c'est tout cuit. Hein. Maintenant, on est parti à la course des records côté Liverpool. Record de matchs sans défaite à domicile. Ils en sont à 51. Le record, c'est 64 du Chelsea de Mourinho. Le record, bien sûr, de matchs domicile et à l'extérieur d'invincibilité en Première Ligue, qui est le record d'Arsenal des invincibles d'Arsène Wenger à 49. Ils en sont à 36 après la victoire d'aujourd'hui, plus que 13. Ça se rapproche petit à petit et c'est vrai qu'ils sont impressionnants, même sans forcément toujours très bien jouer, comme on le répète depuis le début de la saison, mais une victoire plutôt tranquille ce soir contre Sheffield United pour donc terminer 365 jours sans défaite en Première Ligue, puisque leur dernière défaite c'était le 3 janvier contre Manchester City, 3 janvier 2019 bien sûr, et donc aujourd'hui on est le 3 janvier.
J'ai l'impression que tout le monde a admis que de toute façon Liverpool était champion cette année. Même les équipes qui affrontent Liverpool, j'ai l'impression qu'elles ont compris qu'il y avait rien à faire, que c'était eux les champions cette année. Une sorte d'acceptation et de soumission psychologique.
Mais vu que la malédiction dure depuis 30 ans, donc sans titre, les supporters de Liverpool sont les plus prudents finalement. Ils se disent
peut-être qu'il
va se passer quelque chose à un moment.
Il y a une superstition, ils veulent conjurer le sort et ne rien dire avant.
Pas Steven Gerrard ne sait jamais. Il ne sera plus.
Ouais. Non, mais bon, je sais pas, moi, des aliens qui peuvent venir chercher Mo Salah et Sadio Mané, je sais jamais ce qui peut se passer.
Ils y arriveront quand même, non?
Non, ça va être tranquille. Et puis surtout, ils vont pouvoir faire tourner un petit peu plus à un moment pour la Ligue des Champions, pour la Coupe d'Angleterre peut-être, essayer de viser tout ça.
Julien, on a beaucoup dit en Angleterre, ok, c'est très bien, cette année c'est génial, le titre pour Liverpool, la Ligue des Champions pour City. Mais est-ce qu'ils font pas une grosse erreur, City, en les laissant justement s'adjuger le titre dès le mois de janvier
City, ils ont pas fait exprès.
Ils n'ont pas fait exprès. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que est-ce que Liverpool ne va pas être dans un fauteuil pour préparer sa Ligue des Champions justement avec autant d'avance?
Si, bien sûr. Et c'est, mais je pense que c'est de la faute de personne d'autre à part cette merveilleuse équipe de Liverpool qui, comme on l'a dit, bat tous les records, qui est absolument irrésistible cette saison. City, ils auraient voulu être à 2 points, 1 point, et à égalité de points avec Liverpool. Ils ont juste pas pu suivre le train incroyable imprimé par cette équipe de Liverpool. C'est quand même assez incroyable. Un seul match nul et que des victoires en championnat au mois de janvier.
Ce que je veux dire par là, c'est que je regarde beaucoup la Première Ligue. J'ai l'impression qu'à City, il y a quand même un peu moins d'enthousiasme. Ils ont gagné beaucoup de choses et on a l'impression que Guardiola a du mal à réenclencher la machine, à retrouver les ressorts d'excitation de cette équipe qui était quand même brillante dans son registre de jeu, mais brillante ces dernières saisons.
Oui, c'est vrai, mais après je pense que psychologiquement, et je l'ai souvent répété dans l'émission, après les deux saisons qu'ils ont faites à 198 points, je pense que même inconsciemment, c'est impossible de pouvoir continuer sur le même rythme. Même avec les mêmes joueurs, même si t'as pas de blessés, même si t'es à 100% physiquement, t'as fait deux saisons tellement incroyables, domestiquement parlant. Je pense que c'est vraiment compliqué, surtout en Première Ligue et surtout avec un adversaire comme Liverpool, un adversaire direct pour le titre. C'est vraiment difficile de continuer encore pour une troisième saison. Après, effectivement, ils ont perdu plus de points qu'ils n'auraient dû en perdre. Il y a ces défaites qui sont assez incroyables et qui 5 sur les 19 premières journées, c'est-à-dire autant que lors de la pire saison de Guardiola sur toute une saison entière. Donc, effectivement, il y a eu des accros, il y a eu des problèmes. Mais sinon, en temps normal, ils pourraient quand même être facilement soit leader, soit pas loin du leader. Et là, ils sont très très loin parce que Liverpool est juste dans une autre dimension.
Alors, je vais vous donner les résultats de cette 21e journée. Brighton, Chelsea, 1 partout. Burnley s'est incliné face à Aston Villa 2-1. Newcastle s'est incliné à domicile face à Leicester 3-0. Southampton 1, Tottenham 0. Watford 2, Wolverhampton 1. Manchester City 2, Everton 1. Norwich et Crystal Palace, 1 but partout. West Ham a explosé Bournemouth 4-0. Et Arsenal s'est enfin imposé 2-0 face à Manchester United. On continue de dérouler l'actualité de cette Première Ligue avec une nouvelle franco-française, des nouvelles de la cheville de Paul Pogba. Il y a inquiétude forcément, Julien. Quelles sont les dernières infos?
Et opération, non?
Alors opération, effectivement, c'est en tout cas ce que Paul Pogba et son entourage veulent. Ce qui n'est pas forcément le même son de cloche du côté de Manchester United. D'ailleurs, hier soir à l'Emirates, Ole Gunnar Solskjaer a été plutôt... comment on pourrait qualifier son intervention? Il a été assez, en tout cas moi j'ai trouvé un petit peu méprisant dans la façon dont il a dit oh oui, Paul Pogba et son entourage veulent l'opération. En gros, c'est pas la bonne solution, nous on n'est pas du tout d'accord, mais comme il est borné, comme ils sont têtus, et ben c'est ce qu'il va faire, il va faire l'opération et nous on n'a pas notre mot à dire. C'était un petit peu bizarre l'intervention j'ai trouvé d'Ole Gunnar Solskjaer, mais le fait est que Paul Pogba est encore blessé. Alors est-ce qu'il a repris
et que c'est normal
trop tôt
que ça agace et que c'est normal que ça agace un club, hein.
Un joueur, bien sûr que c'est normal.
Un joueur faisait un match d'exhibition à Tours la semaine dernière.
Exactement, quand un joueur est attendu pour être un des leaders et tout, c'est de toute façon une anormalité quand il est blessé. Après oui, on peut considérer qu'il y a forcément une part de hasard, mais il y a plein de choses qui poussent à une blessure et que Paul Pogba est quasiment disparu de Manchester United, où en gros on se demande même s'il y est déjà arrivé, parce qu'entre son conflit avec Mourinho, ses blessures, Solskjaer revient et a quasiment jamais pu l'utiliser. En fait, Pogba n'existe plus depuis la Coupe du Monde 2018 pratiquement. Et comme même dans l'année avant la Coupe du Monde, il a pas été bon, qu'à la Coupe du Monde il a été très fort. Moi, si je suis son employeur, franchement, je l'ai mauvaise. Je me dis attends, nous on te paye au quotidien, on te donne une blinde. À la Coupe du Monde, t'es le leader, t'es le gars fort de l'équipe. Et nous en club, alors qu'on te file, une somme énorme, t'es jamais là, parce que pour le coup, il est jamais là.
Je pense que le problème de Pogba à Manchester, c'est qu'il a jamais Alors, il a sûrement ses torts, mais il a toujours été dans des contextes qui sont compliqués. Il a été avec Mourinho, on sait que ça ne pouvait pas fonctionner. Là, il est avec un entraîneur qui est pas extraordinaire et un club qui a un projet un petit peu curieux où on s'intéresse plus à la rentabilité qu'à la construction d'une vraie équipe compétitive en première ligue. Du coup, je serais un petit peu plus indulgent avec lui quand même. Je pense que il faut qu'il s'en aille. La solution est là pour qu'il retrouve son niveau.
Mais même pour Manchester United, hein, de le mettre en valeur aujourd'hui, c'est pas simple, hein, de retrouver un peu de billes par rapport à l'investissement qu'ils ont fait. Bah, vaut mieux avoir.
Ce qui est compliqué, c'est que c'est un bourbier Manchester United.
C'est ça, mais je pense que voilà, vaut mieux avoir un Paul Pogba qui soit bon avec une cheville libérée, une petite opération d'un mois pendant derrière deux trois mois, avoir un bon Paul Pogba, et même pour le club, hein, et qu'il soit bankable derrière.
C'est ça, ouais, ça devrait être 3 à 4 semaines d'arrêt, visiblement, avec l'opération ou sans l'opération. Clairement, à Manchester United, on pense qu'il peut s'en sortir sans l'opération. Je pense qu'il va se faire opérer. Mais c'est vrai que c'est encore un coup d'arrêt. C'est vrai que t'as raison, Daniel. Cette saison est compliquée. La saison dernière était moins compliquée quand même. Surtout après l'arrivée de Solskjaer en décembre. Il a eu notamment des très bonnes semaines avec Solskjaer.
Mais pour un joueur de cette trempe payé autant.
Ah oui, bien sûr.
Je trouve qu'on est, on est plus du tout exigeant, quoi. C'est comme on parlait de Neymar en début d'émission. Je veux dire, c'est des gars qui ont des salaires astronomiques. Ça doit être les stars de l'équipe. On peut pas se contenter de 10 matchs. Le mec, il doit minimum 30 matchs dans l'année.
Après la Coupe du Monde, on s'attendait vraiment à ce qu'il s'appelle comme étant le meilleur milieu de terrain.
On peut pas dire, c'est comme si tu dis que Neymar, ça y est, il a retourné le public. Attends, oh les gars, qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Après, il a fait un mois. À la fin de la saison, on pourra parler. C'est le plus gros salaire du club. On n'attend plus rien des joueurs.
Par rapport à ce que Damien disait, je pense que l'enjeu pour Manchester, paradoxalement, pour qu'il soit bankable, c'est qu'il fasse un gros euro.
Je pense pas du tout. Non, je pense que la valeur marchande de Paul Pogba, elle existe aujourd'hui. Elle montera pas.
Julien.
Mais elle augmentera pas massivement. Il a gagné la Coupe du Monde il y a deux ans. Enfin, il y a un an et demi maintenant, mais ça fera deux ans cet été. Sa valeur maintenant, elle est
à la hausse maintenant.
Sauf s'il fait.
Oui, mais il aura 27 ans. Il aura 27 ans au mois de mars. Il est pas trop vieux. Il aura peut-être une saison blanche ou une demi-saison blanche à cause des blessures. Et ça, effectivement,
c'est. S'il est tout le temps blessé cette année,
Il avait pas été blessé
avant la Coupe du Monde, je crois pas. Ou alors peut-être. Ouais, la saison d'avant, je me rappelle pas très bien. Je crois pas. En tout cas, pas des grosses blessures comme celle-là. En revanche, ce qui énerve du côté de Manchester, bien sûr, c'est ses voyages à Miami, son voyage à Tours, même s'il n'a pas joué. Hein, il était là. Faut quand même souligner, il était là en tant que coach entre guillemets. Ouais. Mais un dimanche où ton équipe joue en championnat. Oui. Et puis le mariage de son frère aussi, même si ça, en revanche, il avait l'autorisation du club. C'est vrai qu'effectivement, quand t'as été blessé si longtemps, quand tu es le plus gros salaire du club, quand tu es la grande star, quand tu es aussi le produit phare de marketing de ton club, c'est vrai que c'est compliqué.
Alors, il y a eu un autre match qui a retenu notre attention, c'est la victoire d'Arsenal 2-0 face à Manchester United. La première victoire de Mikel Arteta. Et Damien, il y a quelque chose qui te pompe un peu l'air là.
Ouais, aussi bien pour on va prendre le cas d'Arteta parce que c'est le plus récent et le plus frais par rapport au match d'hier contre Manchester United, mais ça vaut aussi pour Ancelotti et depuis que Arteta a repris cette équipe, on dit on sent vraiment qu'il y a la touche Arteta, quoi, il y a la patte Arteta. On voit complètement des schémas de jeu différents, des latéraux qui rentrent à l'intérieur. Oh les gars, et on va se calmer un peu. Juste, Arteta, il a été en prise de fonction le 21 décembre, au moment de Everton-Arsenal. Ok, faut savoir que depuis le 21 décembre, ils ont fait deux jours, le lundi et le mardi, où éventuellement il a pu travailler quelque chose avec son équipe. Sinon, le reste, il était veille de match, donc préparation du match par rapport à l'adversaire, ou décrassage. Veille de match, préparation, décrassage. Et là, en gros, faut me dire quand est-ce que t'es capable de mettre en place des schémas tactiques, des trucs, même mettre ta patte. La seule chose qu'il a réussi à inculquer à cette équipe, c'est de redonner de l'envie de courir à ses joueurs. Et c'est déjà énorme en soi, c'est incroyable.
Oui, mais est-ce qu'est le principe du simple électrochoc?
On commence à parler même de résurrection d'Ozil, donc attention.
Voilà, mais je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de dire qu'aujourd'hui... alors hier, ils ont été bons défensivement, mais je pense pas que ce soit. Enfin, c'est peut-être les mots d'Arteta qui les ont rendus bons, mais ce ne sont pas les différences, les compositions tactiques ou tout ce qu'on veut.
C'est trop tôt. T'as raison.
C'est beaucoup trop tôt et je trouve on s'enflamme.
Je suis pas d'accord avec toi. Moi.
De même pour Everton.
Je suis pas d'accord avec toi.
Pourquoi?
Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que quand tu regardes la position de Xhaka sur le match d'hier, par exemple, c'est totalement différent de tout ce qu'il avait pu faire sous Emery cette saison et sous Ljungberg. Quand tu vois la position de Kolasinac, c'est pareil. Quand tu vois Ozil dans les demi-espaces entre les lignes, c'est pareil. Très différent de ce qu'il avait fait sous Emery dans sa position.
Tu veux dire que déjà, toi, tu sens des changements, quelque chose de positif.
Voilà. Il est arrivé le 21 décembre. Ils ont pas eu un seul jour de repos depuis le 21 décembre. Mmh. Tous les jours, ils étaient au centre d'entraînement ou effectivement, tu as raison, en déplacement ou en préparation de match. Il fait énormément de séances vidéo à l'entraînement. Donc tous les entraînements sont filmés, mais aussi
parce que ça pouvait être que mieux, quoi, en fait.
Le
club était trop mort pour qu'il se passe pas quelque chose.
Je trouve que c'est super réducteur. Je trouve ça tellement réducteur, en fait, pour le travail de coach, tout simplement, de se dire tiens, t'as un coach qui va arriver et qui va faire trois séances vidéo et ça va métamorphoser l'équipe. Ça peut pas se passer comme ça.
Tu peux mettre en place une structure différente de celle qui était avant.
Mais tu vas travailler que sur un principe, éventuellement un principe de jeu ou un détail d'une composition tactique.
Par exemple, regarde, je vais prendre un autre exemple. Arteta est arrivé, il leur a dit pourquoi vous faites jamais de diagonale? Pourquoi il n'y a aucun changement d'aile en diagonale? Donc, à l'entraînement, ils ont fait des diagonales. Ils ont fait des changements d'aile en diagonale. Et il a dit en match, vous mettez 4 passes pour que le ballon aille de la droite vers la gauche, alors qu'en une passe. En une passe, vous êtes capable de changer le jeu de la droite vers la gauche. Pourquoi vous le faites pas plus?
Ouais, mais parce que t'as des joueurs de classe mondiale et qu'il faut leur dire.
Il y a pas eu 2-3 modifications dans la compo.
Mais
tu peux me signaler un petit changement au milieu de terrain, s'il te plaît?
Ah. Si, par exemple, Lucas Torreira, je pense que c'est peut-être je sais pas si c'est à lui dont tu fais allusion, mais
qui a été complètement. C'est ça.
Excuse-moi, c'est vrai.
Il faut dire que Torreira est quand même bien meilleur que Guendouzi.
Ah bon?
Ce qu'il faut dire surtout, c'est que Torreira est bien meilleur.
Depuis l'arrivée d'Arteta qu'avant dans un rôle un petit peu différent encore une fois, mm-hmm. où c'est vraiment le nettoyeur devant la défense et le joueur qui a le plus d'énergie et qui effectivement
et qui fait bien la petite garce aussi là.
Julien, il te manque pas trop Guendouzi au milieu, ça va?
Je l'ai vu hier après le match.
Tu m'as fait la bise.
Oui, bien sûr qu'on s'est fait la bise, on fait toujours la bise. Mais je comprends très bien ton point, Daniel. Contre Chelsea, par exemple, c'est vrai qu'il avait été un petit peu foufou.
Ah bon?
Il a beaucoup d'énergie, je pense, qu'il est encore jeune, il manque encore de maturité.
D'accord. Oui, bah, donc, qu'il soit pas titulaire à Arsenal, alors. Il le sera quand il sera prêt. S'il est prêt un jour.
S'il est prêt un jour, tu as sûrement raison.
Voilà. On va conclure sur ce match entre Arsenal et Manchester United. On a bien compris, Damien, l'agacement qui va aussi finalement un peu avec le poncif journalistique. On est largement responsable de ce genre de choses en s'emballant et en donnant ces analyses là. Alors du coup j'enchaîne. Rooney débute avec Derby County. À quand la patte Rooney?
Il est que entraîneur joueur, hein. Pas l'entraîneur principal.
Je voulais que tu nous racontes un peu cette histoire sympathique du retour de Rooney.
Non, c'est vrai que c'est sympathique de le revoir. Alors, on va dire le bon côté déjà. On va commencer par le bon côté. C'est le retour de Wayne Rooney effectivement à la maison en Angleterre et avec tout ce que ça représente. Bien sûr, hein, lui le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre, par exemple de l'équipe nationale, tout ce qu'il a remporté avec Manchester United. Aussi tous les scandales entre guillemets que ça peut amener dans les tabloïds, etc. Avec Colin, sa femme, les quatre enfants, etc. Donc tout ce que ça représente, effectivement, c'est bon pour le football anglais, c'est bon pour le championship, la deuxième division, parce que ça fait beaucoup parler. Tout le monde a regardé le match aujourd'hui. Il a fait une passe décisive. Il était capitaine. Il a joué toute la rencontre. Derby a gagné. Donc voilà, tout ça, c'est bien. Le côté plus négatif, c'est qu'il est payé par le sponsor du club, qui est un bookmaker, que le bookmaker a décidé de son numéro, qui était le numéro 32, qui est le nom du bookmaker. Donc il y a des choses un petit peu négatives, toutes ces choses néfastes du football moderne.
Avec ça?
Si, bien sûr, parce que
avec
c'est
des suspicions, genre il y a pas, ça est déjà arrivé, c'était lui qui était dans l'histoire.
Alors c'était surtout par rapport au fait que les gens se sont largement offusqués effectivement du fait que ce soit un bookmaker qui paye son salaire, notamment qu'il y avait ces liens entre Rooney, Derby County, le bookmaker effectivement. Et tu as raison, tout ce que ça pouvait représenter après sur le terrain aussi. Il y a quelques jours, il a fait une vidéo pour expliquer les problèmes qu'il avait eu par rapport lui-même au Paris, est-ce que ça avait représenté l'argent qu'il avait perdu, etc. Donc se montrer un petit peu candide alors que au final c'est un produit marketing aussi qu'il soit là et qu'il soit payé par un bookmaker. Donc il y a le côté un petit peu négatif, mais le beau côté c'est qu'il soit de retour et qu'il est déjà plutôt bien commencé.
Julien, je voulais une belle histoire de ce début d'année. T'as tout salopé. C'était
désolé.
Question de
Julien Pierre. Justement, Julien, je voulais savoir par rapport à Wayne Rooney à cette époque à Manchester United. Est-ce que tu as vu hier lors du débriefing justement de ce match Arsenal Manchester United les avis de Rio Ferdinand et de Van Persie? Avec l'anecdote qu'ils ont justement, où t'as Alex Ferguson qui impose à Paul Scholes, à Rio Ferdinand, à tous ces joueurs de l'époque, de donner le ballon à Robin Van Persie. Et lorsqu'il fait ça, il dit parce que de toute façon c'est lui qui va nous faire gagner le titre. Par rapport aujourd'hui au flou dans le jeu que peut provoquer Solskjaer et son management.
Ouais. Tout à fait, c'est vrai. Alors, c'était hier, sincèrement, c'était la première période notamment, c'était vraiment ridicule de la part de Manchester United. Pour Solskjaer, le problème, c'est qu'il a gagné des matchs très importants cette saison. Il a fait match nul contre Liverpool, c'est le seul entraîneur à avoir pris des points à Jurgen Klopp. Il a battu Mourinho et Tottenham. Il a battu Chelsea et Lampard. Il a battu Manchester City et Pep Guardiola, ce qui est assez incroyable. Mais au final, c'est quand même très très décevant dans le contenu la plupart du temps, même si Martial et Rashford sont les deux seuls à un petit peu surnager au-dessus du reste, mais le reste c'est assez catastrophique. Et c'est vrai que t'as du mal à comprendre la direction dans laquelle le club va, t'as du mal à comprendre ce que Solskjaer veut lui, son style de jeu, ce qu'il essaye en revanche de mettre en place. On parlait d'Arteta tout à l'heure, lui ça fait plus d'un an qu'il est là maintenant, Solskjaer, et tu ne vois quasiment rien dans les intentions de jeu, dans le projet de jeu. Et tu te demandes où le club va en fait. Combien de temps ils vont le garder déjà, s'ils sont vraiment convaincus de sa qualité d'entraîneur. Et surtout, deux, à quel point ça peut aussi faire mal à Manchester United de garder Solskjaer trop longtemps.
Merci beaucoup Julien Laurence d'avoir été avec nous et de
nous
faire ton éclairage sur la Première Ligue. On revient dans quelques secondes, on va parler du Mercato Show. Et puis dans le dernier quart d'heure, on jouera ensemble. Vous nous appelez au 32-16 pour participer, vous associer à l'un de nos consultants pour les défier sur vos connaissances football. A tout de suite.
RMC L'Afterfoot, Timothée Mémon.
Ah ouais, 23h25 en extase devant le but inscrit par Choudhury hier avec Leicester. Absolument sublime, je vous le conseille. Une frappe sous la barre. Expérience splendide dans sa construction et dans sa finition. C'est pas du tout radiophonique. Donc on va passer au Mercato Show avec Valentin Jamin qui nous a rejoint. Et on n'a pas de jingle.
C'est dommage. Bonsoir, c'est messieurs.
Salut. C'est pourtant écrit Mercato Show jingle. Mais
c'est pas le petit frère de Nico.
On a demandé, non. C'est pas le petit frère de Nico. Non,
j'aurais bien aimé, mais nous sommes plus collègues. C'est bien dommage.
C'est déjà un début. Alors, ça va être le Mercato Show jingle.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
Ça valait le coup. On commence avec Monaco. Benjamin Heinrich est tout proche de quitter le Rocher.
Et oui, comme annoncé par la presse allemande, Benjamin Heinrich et Leipzig sont mis d'accord. Info confirmée par RMC Sport. Le latéral droit parfois utilisé au milieu de terrain à Monaco a joué 5 matchs de Ligue 1 cette saison. Il était également courtisé par le Bayern Munich qui souhaitait le faire venir sous forme de prêt. Mais Heinrich a longtemps discuté avec Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig, et donc il a fait son choix. Il reste maintenant deux clubs à se mettre d'accord. Leipzig est prêt à mettre 20 millions d'euros. Monaco en demanderait 25, donc un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours, à moins que Robert Moreno, le nouvel entraîneur de l'ASM, ne bloque le joueur après avoir fait sa fameuse revue d'effectifs.
Bon, il y a plus de 70 joueurs sous contrat, il n'y en a plus que 40 à vendre.
Non, mais en tout cas, c'est bien qu'il puisse le vendre déjà à ce prix-là, quoi. T'as vite fait de t'enterrer à Monaco, justement, dans cette masse de joueurs.
Après, il a un profil quand même, il est jeune, hein. Il avait un gros potentiel, c'est vrai qu'il est venu se perdre à Monaco,
en Allemagne,
ça ira pour lui, ouais.
Question, il y aurait une bascule financière intéressante s'il partait pour cette somme-là.
Il avait été recruté pour 20 millions en août 2018 à Leverkusen.
Bon, grappiller quelques
non,
sous.
Non, ça va.
Au moment de dégraisser le mammouth, pourquoi pas. Umtiti serait convoité par Arsenal.
Exactement. Alors, c'est selon la presse anglaise. Mikel Arteta, coach des Gunners, pense au défenseur central français de 26 ans pour renforcer donc sa défense. Umtiti, remplaçant à Barcelone actuellement, il a disputé 5 matchs de Liga et 2 de Ligue des Champions pour le moment. Il doit gagner en temps de jeu pour l'Euro cet été. Il avait été convoqué pour la dernière fois en septembre dernier par le sélectionneur Didier Deschamps.
Ce serait une bonne idée pour lui. il a besoin de jouer, il peut pas se contenter d'être remplaçant.
C'est obligatoire pour l'Euro là.
Donc c'est bien.
Mais est-ce que c'est la bonne destination?
Ah ouais, ouais, bah attends, tu vas en première ligue, oui, bien sûr. Ouais, quand même.
Même Zouma, il est convoqué alors qu'il joue pas dans un club majeur de PL non plus, tu vois. Donc oui.
Bah, Chelsea, c'est quand même un club majeur.
Quand il était avant qu'il soit à Chelsea, il était prêté
à Everton.
Il était prêté à Everton.
Avant. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, Arsenal prend quand même pas mal l'eau. Bon, ils ont réel hier avec la patte.
Arsenal, c'est complètement vu. Si t'es titulaire là, dans une deuxième partie de saison où Arsenal se comporte mieux, il sera dans cette aventure-là. C'est mieux que d'être sur le banc au Barça.
La Juventus recrute un ailier droit.
Exactement, il s'agit de Dejan Kulusevski, 19 ans, très jeune joueur international suédois. Il a signé aujourd'hui pour 5 ans en provenance de Bergame. Il est prêté par Parme, par l'Atalanta Bergame. Il va terminer même la saison à Parme. Prix du transfert, messieurs, plus de 40 millions d'euros.
Et là, je veux l'avis de Damien Perinel parce que les gamins de 19 ans à 35, il adore ça.
C'est exceptionnel. Bravo, 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 messieurs les agents. Bravo, messieurs les acheteurs. Mais on tombe sur, moi, je tourne la tête, quoi, au bout d'un moment. Mais il a fait combien de matchs?
17 matchs cette saison et la bagatelle quand même de 4 buts en Serie A cette saison pour le moment.
Gros potentiel. Ça, c'est un jeune à fort potentiel, certainement.
Je veux voir très fort.
Est-ce que l'objectif est forcément financier sur un truc comme ça, prendre un joueur comme ça? En général, il y a des bascules énormes qui sont faites. On parle des agents.
Juve, tu vises pas la bascule, tu vises simplement qu'ils envisagent que ça devienne un très bon joueur et ils le prennent jeune pour le faire progresser dans le club.
Non, mais après, je veux dire, on prenait l'exemple là, au Benfica de Jadson Fernandes. Non, c'est ça, Jadson.
Qui est visé par Lyon, notamment.
Ouais, visé par Lyon. Et le gamin, il a 19 ans. Il a fait 6 matchs en Liga. Il a fait 2 matchs en Champions League. Ils en demandent 40 millions. Je veux dire, mais c'est au bout d'un moment, c'est vrai que on peut difficilement suivre, parfois, quand même.
Courtisé par le FC Nantes, Dimitri Foulquier est prêté en Espagne.
Exactement, à Grenade, 11e de Liga, un prêt qui court jusqu'à la fin de la saison pour le latéral droit de 26 ans, champion du monde U20. Il était déjà passé par Grenade pendant 4 ans entre 2013 et 2017.
Quand il quittait Rennes.
Exactement.
Mais c'est dommage parce que c'est un bon joueur et je trouve qu'il rentrait bien dans ce que Gourcuff veut mettre en place à Nantes, donc c'est un peu dommage. Ouais.
Surtout qu'à droite, à Nantes, Fabio est blessé, sinon c'est Denis Sapia, et pourquoi pas du renfort, ça aurait pu faire du bien en effet à l'effectif Nantes.
Messieurs, de ne pas voir Foulquier revenir, c'est dommage, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre.
Ouais, à peu près.
Ouais, j'ai un peu l'impression que j'avais en fait.
Non, ça m'étonne, c'est le club entraîné par Christian Gourcuff, c'était une de ses priorités. Comment tu oses dire ça dans l'after?
Ouais, écoute, ok. Je ne devrais pas oser, Jonathan.
Mais comme c'est Christian Gourcuff.
Tu vas m'excuser. Hein.
C'est Christian Gourcuff. Il y a des choses qu'on ne critique pas.
Ouais, d'accord, ok.
Le Paris Saint-Germain pourrait se séparer de l'un de ses titis.
Exactement, il s'agit de Moussa Sissako, 19 ans, info de Loïc Tanzi, notre journaliste RMC Sport. Le jeune Parisien intéresse notamment le Celtic Glasgow, encore Utrecht aux Pays-Bas, ainsi qu'une équipe de Ligue 2 dont le nom n'a pas filtré. Sissako, il a disputé 5 matchs de Youth League cette saison et n'a jamais été convoqué encore en Ligue 1 par Thomas Tuchel.
Vous connaissez un peu ce joueur, messieurs?
J'ai vu jouer une fois cette année contre le Real, il me semble, en Youth League, certainement. Non, mais après, combien? 25 millions, 30 millions celui-là?
On n'a pas de tarif encore, mais.
Pas trop d'avis là-dessus. Là.
Et la politique du PSG qui vend systématiquement ces jeunes, ça vous gêne pas?
Non, parce que de manière, est-ce qu'ils ont le niveau pour s'imposer en équipe première?
Là, quand on voit les clubs prétendants, on se dit certainement qu'il n'y a pas certainement du très haut niveau. Il y a Kouassi, là, je crois, qui est parti à Leipzig, c'est ça qui a signé. On se dit éventuellement c'était un joueur qui avait un potentiel.
Est-ce qu'ils devraient pas les prêter comme le faisait Chelsea à une époque?
Et à les impératifs, ils peuvent se faire des sous pour le fair play financier, c'est bien aussi. On a vu cet été, ça leur a quand même, tu vois, ça les a bien aidés.
Effectivement, le FC Metz de son côté,
ils ont vendu
assez cher, entre 15 et 20.
Ils ont vendu pour 80 millions, hein, 90 millions, c'est pas...
Ça leur a tiré une belle épine du pied.
Le FC Metz pourrait accueillir un défenseur central.
Et oui, d'après nos informations, les discussions sont avancées entre Metz et la Gantoise pour Dylan Brown, défenseur central tunisien de 24 ans, joueur formé à Cannes. Il était passé en Ligue 2 avec Niort en 2017. Il avait quitté Niort pour la Belgique.
On en a parlé de Metz la semaine dernière, messieurs. Est-ce qu'il faut pas un peu plus expérimenté que
ça? Je sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il faut recruter derrière? C'est impératif parce que cette équipe, elle a tendance à être très naïve sur les phases défensives et à prendre des buts beaucoup trop facilement. Donc, je sais pas ce que ça vaut, hein, ce Dylan Brown, mais j'espère pour eux que
Il a un nombre de dates quand même.
Ouais. Il a pas beaucoup joué, hein. 5 matchs pour l'instant en championnat cette saison.
Ah,
donc,
bah, c'est pas du tout le profil qu'on attend.
Star,
il a quel âge?
Il dirait pas là-bas.
Quel âge?
Dylan Brown, 24 ans.
Et ben, ouais, c'est pas le genre de profil auquel je m'attends pour Metz qui joue, va jouer le maintien jusqu'au bout. J'aurais vu plutôt un joueur avec plus d'expérience qui est habitué à ce genre de situation. Pas forcément une superstar, mais un mec qui sait, tu vois, sortir le bleu de chauffe.
Alors, on vient chez Joe?
Exactement. Exactement.
Ouais, Dylan Brown, effectivement, pourquoi pas une piste côté FC Metz pour renforcer un petit peu cette formation Messine. C'est le début.
C'est le début, ouais. C'était important, ça.
Oumtiti, oui. Mais c'est vrai qu'il
y a de noms qui ont été claqués au début, mais là on termine sur.
Pour revenir au sujet d'Oumtiti, c'est vrai qu'Arsenal, pour le moment, on a l'impression qu'il table hyper large. On avait entendu parler la semaine dernière de Koulibaly.
Oui. Il le voulait. De Napoli. Napolitain. Il le voulait, mais c'est beaucoup trop cher.
Ouais.
C'est irréalisable.
On avait entendu parler d'Upamecano aussi, de Leipzig.
Au milieu de terrain, il y a Rabiot qui avait été évoqué.
C'est des mecs engagés dans des projets. C'est là, Oumtiti, le mec, il est au Barça, mais il ne joue plus.
Et donc là,
t'es légitime à aller le chercher, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est Adrien Rabiot la priorité.
L'idée d'Adrien Rabiot, ouais, c'est une bonne idée pour
pareil, pour le Roland, pour enfin lui donner après du temps de jeu. Est-ce qu'il en aura Arsenal?
Pour moi, il va en avoir à la Juve. Tu peux pas faire une saison vide comme ça et après revenir.
Il est pas dans l'équipe titulaire.
Moi, je pense qu'il va réussir à s'imposer, Daniel.
On va se dire qu'il sort qui? Il sort Matuidi?
Je pense.
Il va sortir Matuidi de l'équipe.
C'est très difficile de faire une saison où tu joues pas du tout et d'arriver nouveau championnat, nouveau club.
Est-ce qu'il sort Matuidi de l'équipe? Matuidi, il est adoré
pas cette
par
saison.
L'entraîneur et il est utile à l'équipe.
Est-ce que c'est vrai?
Pjanic, tu le sors pas. C'est compliqué.
Et c'est qui les autres compliqués? Qui joue au milieu à la Juve?
Récemment, le plus c'était Bentancourt.
Bentancourt, ouais.
Et de toute façon, tu peux pas aller le mettre de ce côté-là, Rabiot.
Non. Il va
pas
devant la défense. Qui joue devant la défense? Mathieu, tu joues un peu décalé.
C'est Pjanic.
Mais Pjanic avec qui?
Il joue pas devant la défense.
Non, il joue.
Sarri a dit qu'il voulait le faire jouer devant la défense en tout cas.
Mais au PSG, il voulait.
Je pense que c'est Sarri qui va appeler, qui va dire.
Mais Daniel, si c'est Sarri et la Juve qui lui disent Adrien, il faut jouer devant la défense.
Pjanic, Jonathan, tu sais qui c'est Pjanic?
Mais il joue avec qui Pjanic devant la défense? Il joue pas tout seul.
Mais si, il joue à 3, donc à 1 et puis.
T'as dit ballon 10 même.
Okay. Bien sûr, Sarri c'est 4-3-3, c'est toujours un seul mec.
Ok.
Rabiot, il va jouer, il va avoir plus de temps de jeu, il aura l'occasion de montrer ses qualités, mais quand va arriver le match de Ligue des Champions où t'as besoin d'un mec au milieu qui cavale plus, surtout pour couvrir le non-repli de Ronaldo, j'ai peur que ce soit Matuidi quand même.
T'as Ramsey aussi.
Ramsey, déjà il a de l'avance aussi sur lui, même s'il joue un peu plus haut.
Pas le même profil.
Mais après au milieu il y a pas un milliard de places. Donc Rabiot, si Arsenal, ça peut peut-être lui convenir, ouais.
Voilà pour le projet Arsenal.
Arsenal aussi, il faut qu'il soit titulaire. Si Ozil, visiblement,
qui est dans une grande Chaka, il peut y jouer.
Guendouzi.
À la place de Chaka, il joue, Daniel. Il est meilleur que Chaka.
Arteta a parlé de Granit Xhaka en disant qu'il avait confiance en lui. On l'avait évoqué du côté du Hertha Berlin et finalement il semblerait qu'Arteta compte vraiment sur lui.
Il a maintenant visiblement il est repositionné sur le terrain.
Il est meilleur que Xhaka quand même.
Mais il est meilleur que Xhaka. Rabiot, il a rien fait dans sa vie.
Oh,
il a rien fait.
T'exagères. Il a quand même montré. Il a quand même fait des bons matchs en Ligue des Champions.
Il a fait 3 bons matchs en Ligue. Quand tu arrives en première ligue,
un peu dur quand même.
Quand tu arrives en première ligue, c'est un autre monde. Et pendant que tu parlais, il y a 2 secondes justement, il y avait Mourinho devant mes yeux. Donc je ne l'entendais pas, mais comme c'était sous-titré, j'ai pu voir ce qu'il disait, notamment de Ndombele, qui était un monstre absolu pour tous les observateurs français. Mourinho l'a descendu, mais je sais même pas comment il l'a taillé en pièces, en disant quand on passe de la Ligue 1 à la Première Ligue, c'est une autre vie, un autre football, un autre monde.
Oui, mais il y a quand même une différence entre Ndombele et Rabiot.
Je dis pas que. Mais Ndombele, la terre entière se l'arrachait. Les observateurs français se mettaient en sang à se faire couler le sang par terre sur Ndombele, bien plus que sur Rabiot.
Tu penses que Ndombele est un meilleur joueur qu'Adrien Rabiot?
Mais j'en sais rien, les deux pour moi sont pas formidables déjà. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu n'as fait que tes preuves en Ligue 1 et en 3 bouts de match de Ligue des Champions, ça vaut pas grand chose quand t'arrives en première ligue.
3 bouts de match en Ligue des Champions, alors ça veut pas dire. T'abuses. 3 bouts de match en Ligue des Champions, t'abuses.
3 matchs entiers, si tu préfères. C'est assez, 3 matchs entiers.
Moi, j'en vois un peu plus. J'en vois au moins 5-6 de matchs où il a montré qu'il avait le niveau Ligue des Champions. Après, est-ce qu'il a été très régulier? Est-ce qu'il s'est pas fait évoluer?
Je vais pas t'emmerder à te demander les 6 parce que t'auras du mal. Donc laisse tomber. Moi, je te dis que Il est pas du tout. Barça, il est pas du tout.
Un match à Chelsea. Il est en poule.
Il va arriver à 3 ou 4 et un match au Real et tu vas arriver à 3 ou 4. Et sachant que tu n'auras pas de match en plus couperet, puisque le PSG en plus n'en jouait pas des masses, que je sache.
Messieurs, concernant. C'est
un autre
point
de la première ligue. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'y imposer. Mais il devra tout recommencer à zéro. Exactement comme Dombélé, comme tous ces mecs-là. Tu n'arrives pas en territoire conquis. Et sur ça, on n'est pas uniquement parce que tu as un prix de transfert exorbitant.
Je pense juste qu'avec ses qualités et son intelligence de jeu, il a le niveau pour s'imposer. Après, le problème qu'il a, c'est plus dans la tête que sur son talent pur.
À Everton, dans un club moyen, ouais, ok, ça, il peut, mais on en est. Voilà.
Et Arsenal, c'est quoi en ce moment?
Messieurs, c'est pas
un club moyen en ce moment.
Messieurs, le Mundo Deportivo a fait une annonce importante, on va dire, au regard du prisme parisien.
Exactement, c'est le retour de l'affaire Neymar, selon le Mundo Deportivo, puisque ce journal espagnol annonce que le Barça compte toujours tenter de recruter Neymar, notamment pour préparer l'après-Messi. On parle potentiellement de 180 millions d'euros pour le faire venir, même si ça ne convaincrait pas forcément tous les supporters, puisque voilà, avec ce qui s'est passé cet été, plus il y a des affaires de tribunal, etc. Mais en tout cas, selon Mundo Deportivo, le Barça est toujours déterminé à faire revenir Neymar cet été.
Très bien, on verra.
S'en fout, non, c'est l'hiver là, il y a rien à sortir.
Vous n'allez pas dormir. Mais pas non, dormir de la nuit là, moi.
Les gars, c'est la trêve. C'est la trêve, il n'y a pas de match, il faut bien sortir, remplir les feuilles de chou.
Moi je pensais qu'il voulait Mbappé pourtant, le Barça.
Mais mince, c'est hier. Pareil.
Effectivement, ça change. Tiens, on termine avec une petite info extrêmement importante qui vous tient à cœur. On l'a annoncé, c'est l'arrivée en Ligue 2 de René Girard.
Et oui, messieurs, je savais que ça vous ferait plaisir. René Girard qui rejoint le Paris FC. Il remplace Mecha Bazdarevic, écarté lundi dernier. Il prendra ses fonctions ce lundi. Il était libre depuis son départ du club marocain du Wydad Casablanca en novembre 2018. Girard, on le rappelle, notamment passé par Nantes, Lille ou encore Montpellier.
Ah, j'avoue, c'est quand tu ne sais plus du tout quoi faire.
Tu prends René Girard.
Parce que le mec est plus en poste, quand même.
Il reste sur deux expériences très compliquées en plus.
Entraîneur d'une autre époque. Là, j'avoue, j'ai de l'amitié, voire de l'affection pour Monsieur Ferracci, mais j'ai peur qu'en matière de football, et c'est pas faute de lui avoir fait comprendre, mais je suis pas sûr qu'il comprenne vraiment, quoi. Parce que là, aller chercher René Girard, tu vas certainement redresser tes résultats et éviter la descente, parce que ça va être ça la mission. Après le reste, quel est le projet du club qui se veut pourtant avoir, enfin c'est un club qui se dit avoir un projet. Là, j'avoue, je comprends plus grand chose à ce que veut faire le PFC là.
Après, c'est surtout il y a le départ de
Pierre Drey aussi également.
Oui, il y a Drey aussi pour le recrutement, ouais. Mais enfin Drey aussi, pareil. Si tu suivais ce qu'il avait fait dans les clubs et tout, c'est un foot de baston, c'est un foot de physique, c'est un foot.
Je pense que c'est surtout
partout.
Nouveau,
si tu suis Girard, c'est la même chose.
C'est ça, ancien membre de la cellule de recrutement du PSG notamment, qui prend la place de directeur sportif à la place de Pierre Drey aussi.
Merci beaucoup Valentin d'avoir été
avec grand plaisir,
avec nous pour ce Mercato Show. On te retrouve rapidement. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec vous, auditeurs. Vous venez pour jouer avec nous dans le quiz de l'After. On va mesurer nos connaissances les uns et les autres. A tout de suite pour la dernière ligne droite de cette émission.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Timothée Mémon.
23h42 de retour dans l'after pour la dernière ligne droite et le quiz. On va jouer ensemble pour mesurer nos connaissances, essayer de remporter évidemment ce quiz et de faire gagner nos auditeurs pour nous faire participer à ce quiz. Le seul homme capable d'acheter 4 valises MPG dans une saison, Arthur Robert.
Bonsoir messieurs.
4 valises MPG. Normalement tu peux deux, mais vu qu'il triche tellement.
Des légendes urbaines.
Bah. Ça a été prouvé. D'ailleurs, le grand moufti Gilbert Rigoy l'a confirmé.
Il pirate les comptes de MPG des autres, surtout.
Je suis l'homme le plus
intelligent. T'as jamais piraté un compte MPG?
Non, ça m'est jamais arrivé. Une fois ou deux.
D'accord.
Une fois ou deux.
On va effectivement jouer ensemble. On vous rappelle évidemment que l'after reviendra demain, notamment avec Nicolas Jamin, qui vous fera vivre cette
soirée. Ça y est, il revient du Cap Ferret.
Absolument.
Très bien.
Alors on va accueillir l'auditeur.
Absolument, on va tout de suite accueillir Adrien qui nous rejoint pour participer à ce quiz. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Salut Adrien.
Comment vas-tu?
Salut Adrien.
Ça va super.
18 ans, supporter de l'OL.
Ouais, c'est ça.
Bon courage mon pote.
En souffrance.
Ouais, c'est dur en ce moment là.
Alors Adrien, avec qui tu veux faire équipe? On va faire gagner un t-shirt de l'after.
Ah, c'est tout cadeau.
Avec, pardon?
Avec Daniel.
Adrien qui joue avec Daniel. Pour le reste, Arthur, on fait tous cavalier seul.
Ouais, exactement. Donc une équipe Jonathan, Timothée, Daniel avec Adrien et Damien seul. Ouais, il est aidé.
Ah, c'est comme au tarot là, c'est trois contre
l'équipe. Ah, là c'est. Ouais. Allez,
messieurs, donc on va partir sur une première partie sur le mercato. Je vais vous parler d'une blessure. Il va falloir me trouver le joueur. C'est important. C'est un lien avec le mercato. Alors, c'était en 2002. J'étais à deux doigts de m'engager avec Manchester United. Je vois mon rêve s'envoler à cause d'une maudite entorse du genou.
Rio Ferdinand.
Une blessure contractée après avoir trébuché sur mon chien.
Escudé.
Jonathan.
Quoi ? Putain, mais t'es allé en 2002 là ?
En 2002. C'est Timothée qui a dit
ouais, c'est Tim.
Jonathan.
Donc, non, s'il a dit Jonathan, parce qu'il y a une histoire de chien, c'est.
Marinette, je l'embrasse.
C'est pour
elle écoute. Et c'était Bruno Satin, qui était l'agent de Julien Escudé à l'époque.
D'accord, effectivement.
Qui est le défenseur le plus cher de l'histoire du
Ferdinand.
Maguire.
C'est moi.
Ah, bon gars, oui.
C'est moi qui l'ai dit.
Non, c'est moi.
Maguire, Jonathan.
Ah. Oui, bien sûr.
Jonathan. C'est l'auditeur.
Jonathan.
On va demander en régie, on va demander qui l'a dit en premier.
C'est Adrien.
Est-ce que c'est Adrien ou est-ce que c'est Jonathan ?
C'est moi.
Ah, c'est Adrien.
Voilà, Adrien,
c'est le VAR. Mais quelle mauvaise foi ce gars, c'est
zéro, donc on donne le score, Jonathan, zéro. Depuis... Un point pour Timothée, un point pour Adrien et Daniel. Et zéro.
On nous en veut à notre équipe.
Pour Damien.
Ouais, je suis pas le seul.
Mercato zéro. Encore, le transfert le plus cher de l'histoire de l'AS Saint-Etienne.
Dioni.
Alors ça, un transfert à 10 millions d'euros.
9,5 même.
Ouais,
on n'est pas atteint les 10.
Il y a débat parce que les primes de Boubacar. Comment il s'appelle ?
Dioni ?
Non,
Bouba Camara.
Non, pas Camara, de.
Fain
de
nom ?
Bon, enchaîne,
on Boubacar, qui a été venu du Werder Bremen.
Moi, selon Transfermarkt, en tout cas, j'ai 10 millions.
Allez, enchaîne.
Allez.
Qui a dit, après son transfert à Manchester City en 2008, je suis heureux d'avoir accepté la belle proposition de Chelsea ?
Nasri.
Jo.
Non, donc c'est un joueur de foot. Lors de sa présentation. En 2008,
Robinho.
C'est bon pour Daniel. Je redonne les scores. 0 pour Jonathan, toujours 2 points pour Timothée, 2 points pour Daniel et Adrien et 0 pour Damien, ça a débuté le quiz.
Robinho, faut se souvenir de lui quand même.
Oui. Ouais, putain. Quel est le transfert le plus cher de l'histoire du mercato hivernal ?
Suarez.
Hivernal.
Tevez. Non plus. Alors je vais vous donner un indice.
Van Dijk.
Il a joué en Italie.
Balotelli.
Non. Non, c'est pas Suarez. Il a joué en Italie. Il débute en Italie.
Zlatan ?
Non, mais... non. Il a plus de 60 sélections avec le Brésil.
Ronaldo.
Ronaldinho.
Non,
Rivaldo.
Non plus.
Ronaldo.
Plus de 60. C'est un transfert récent, attention. Donc il a joué en Italie. Il a débuté en Italie. À l'Inter, pour être plus précis. Non.
Non.
Non plus.
Un des autres. Adriano.
C'est très récent. C'est récent. Il joue aujourd'hui en Allemagne.
Gabigol.
Il joue aujourd'hui en Allemagne.
Hein ?
Il joue aujourd'hui au Bayern Munich.
Douglas.
Coutinho, ça a été dit par l'auditeur. Adrien, bravo.
Oh.
Coutinho, et c'était 145 millions.
C'est chaud.
Et ouais, il fallait le trouver.
Ah bah, on l'a pas trouvé.
Et 0 pour Jonathan, 2 pour Timothée, 3 pour Daniel et Adrien, et 0 pour Damien. On va changer de sujet. T'as réussi la dernière fois, t'avais gagné le quiz. On va passer sur Rooney. C'est une enchère. Il y a 3 points en jeu, l'auditeur n'a pas le droit de jouer. Adrien, je suis désolé. Enchère, combien d'entraîneurs ayant coaché Wayne Rooney, vous pouvez me citer, donc en club ou en sélection ? Combien d'entraîneurs ayant coaché Wayne Rooney, vous pouvez me citer ? Jonathan, on commence par toi.
1.
Timothée. 2. Daniel.
Ben attends, je suis à 2. Je suis à 2 aussi, là, j'arrive. Oh là 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 là.
Allez, 5. 4. 3.
3.
3. Damien. Damien, est-ce que tu pèles au-dessus de 3 ? Donc 3. Je répète la question.
3.
Non, est-ce que tu dois aller au-dessus ?
4.
4, très bien. Jonathan.
4. Yes. Vas-y, 4.
Jonathan, 4. Est-ce que tu vas au-dessus de 4 ?
Je
tu laisses, très bien.
Tim.
Timothée, est-ce que tu vas au-dessus de 4 ?
Bah moi, ah oui, non, mais 4 avec l'auditeur.
Timothée,
je sais pas parce que...
Ouais.
Est-ce que tu vas au-dessus de 4 ? Tu laisses la main ? Allez, 5.
Il y a doute.
Tu laisses la main. Allez, Damien.
Ok, David Moyes.
David Moyes, c'est bon. 2 fois Everton pour ses débuts, puis après à Manchester United.
Donc Ferguson.
Ferguson, évidemment.
Ben Olsen.
Ben Olsen, fallait aller le chercher. Donc Ben Olsen, c'était son coach aux États-Unis.
Et à partir de ce soir, Wayne Rooney.
Et voilà, c'est pour ça que j'hésitais. C'est pour ça que j'hésitais.
Là,
non, ça compte pas.
Il est.
Si, ça compte.
Qu'ils l'ont coaché.
Non, il est un entraîneur.
Moi, en équipe d'Angleterre, ça vaut. Et
justement, c'est ce que j'ai dit.
Southgate,
donc Eriksen, McLaren, Capello,
Pierce, Samuel Allardyce. Je peux peut-être en trouver un autre.
Je te laisse une. Non, mais alors, c'est facile. Je vais. On va. Alors, c'est simple. Il y a les trois points au jeu, Damien.
On lui laisse.
Non, non, Damien, pour t'en sortir.
Malin, reconnaissant lui le mérite d'avoir essayé.
Cite-moi l'entraîneur aujourd'hui à Derby County de Wayne Rooney. C'est un entraîneur connu. Qui est passé par le PSV Eindhoven, c'est un joueur des Pays-Bas connu en milieu de terrain.
C'est facile.
Passé par le Barça.
C'est facile.
Van Bronckhorst.
Je vais pas compter le point. On va rien compter, donc on est toujours à 0 pour Jonathan, 2 pour Timothée.
Je l'avais la fourberie.
3 pour Daniel et Adrien. Et 0 toujours pour Damien.
Merde, on l'a gagné cette enchère avec Adrien là.
Contre quel club Rooney marque son premier but en pro?
Manchester.
Non.
Arsenal.
Arsenal. Jonathan, premier point.
Je crois que c'est plus pour un Boxing Day, enfin, il me semble.
Rooney, le dernier Anglais à avoir marqué en finale de C1. C'était en 2011 lors de la défaite face à Barcelone.
Ouais.
Qui était le dernier Anglais avant lui à avoir marqué en finale de C1?
Frank Lampard.
Frank Lampard, c'est bon pour Daniel. 4 points pour Daniel. 2 pour Timothée, 1 pour Jonathan. Et toujours 0 pour Damien.
Vous m'avez niqué.
Alors, c'était une finale remportée au tir au but par Manchester United.
Ouais, 2008.
Il y a un Français. Qui manque son pénalty. Nicolas Anelka, c'est bon pour Daniel. 5 points. Ah, c'est une démonstration, là. Attention, hein. Donc, je redonne. 1 point, Jonathan. 2, Timothée. 5, Daniel et Adrien.
On a trop fait des quiz.
Et 0.
On est rincé, là. Il revient, elle est prêt.
Alors, le 12 février 2003, Wayne Rooney devient le plus jeune joueur à être appelé sous le maillot des Three Lions. En honorant sa première sélection face à l'Australie, il avait 17 ans et 111 jours. Qui aujourd'hui détient le record?
Walcott.
Putain.
Walcott, et pour la petite anecdote, Walcott, c'était le 30 mai 2006, face à la Hongrie, il avait 17 ans et 75 jours.
Hein? Jadon Sancho, il a
non.
pas des...
Non, 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 ça n'a pas été battu depuis.
Il essaie de gratter.
J'ai vérifié, attends.
Vérifié Jadon Sancho.
Évidemment.
Ouais, allez.
Coupe de France, on va passer petit thème Coupe de France. Lors de la dernière finale de la Coupe de France, Rennes s'est imposé au tir au but face à Paris.
Ouais.
Quel Parisien a manqué son tir au but?
Nkunku.
Ah, c'est l'auditeur. Bravo.
Auditeur, Adrien. Bravo. Ça fait 6 points pour Daniel et Adrien. Il est bon, Adrien. Un point pour Damien.
Heureusement qu'on lui a réouvert son micro parce que. Trois questions qui répondaient si c'est trop
2 points
juste.
Pour Timothée et 1 pour Jonathan.
Je crois que tu vas gagner de toute façon.
Le 3 mai 2014, Guingamp remporte la finale de la Coupe de France face au Stade Rennais, 2-0. Qui était l'entraîneur de Rennes?
Montagnier.
Bien joué, Damien.
Non, Corbis, plutôt.
Non, fallait chercher.
L'entraîneur de Guingamp.
C'était Gourvennec, l'entraîneur de Guingamp.
Non, il est arrivé l'année d'après.
Alors, deux entraîneurs ont réussi l'exploit de remporter 4 Coupes de France. Il y a André Cheva avec Lille dans les années 50. Et qui est le deuxième?
Robert Herbin.
Non.
Des Coupes de France.
4 Coupes de France. Il y a seulement 2 entraîneurs dans l'histoire du foot français qui ont remporté 4 Coupes de France. Donc, comme je l'ai dit, il y a André Cheva avec Lille dans les années 50.
Laurent Blanc.
Non.
Non.
Non, pas Blanc.
On parle d'entraîneur français.
Entraîneur français.
C'est pas Eli Bob.
Non, c'est pas Eli Bob.
Yvan Poulouis,
s'il en a combien?
Alors, je vais vous donner un indice, il a entraîné Lens.
Daniel Leclerc.
Giroud. Non, Giroud. Giroud,
je pensais à Giroud.
C'était un petit piège, et puis finalement, tu t'en es bien sorti. Ça fait 2 points pour Jonathan, 2 pour Timothée, 6 pour Daniel et Adrien. Et 2 pour Damien.
Il a gagné 4 Coupes de France, 2 avec
4 Coupes de France, il en a gagné.
Alors,
94, 96,
donc
2003-2005.
2003-2005. Et 2005, je m'en souviens plus, 2005.
Alors, enchère qui va être pas mal celle-ci. Alors, combien de joueurs ayant participé à la finale de la Coupe de France 2006? Donc, la finale de la Coupe de France 2006, c'est le Paris-Marseille. Victoire 2-1. Je donne pas les buteurs, du coup, comme ça vous pouvez réfléchir. Vous pouvez me citer.
2005-2006.
Donc, Paris.
De quoi, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut combien de joueurs ayant participé à la finale? Vous pouvez me citer. C'est une enchère, donc, Adrien, tu n'as pas le droit de jouer.
Okay.
Alors, Timothée, on va commencer par toi.
4.
Daniel.
Des joueurs ?
Des joueurs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. 8.
Non.
Non, tu t'arrêtes. Jonathan. Jonathan, est-ce que tu vas au-dessus du 8 ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9.
9, très bien.
10.
10 pour Daniel. Timothée,
non, je...
tu laisses la main. Très bien.
Je n'avais pas
Jonathan.
Surenchérir.
Alors, juste avant de continuer, je laisse le droit à deux erreurs parce que c'est compliqué là, comme enchère. Vous avez le droit de vous tromper deux fois sur des joueurs. Jonathan, est-ce que tu vas au-dessus
du
10 ?
Tu le dis alors qu'on est ressorti.
Oui, mais tu n'allais pas trouver au-dessus, toi, t'étais perdu.
Pardon.
Bon, alors, Jonathan, est-ce que tu vas au-dessus du 10 ? 11, très bien. Daniel.
Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avec un entraîneur, je suis à 12. On a le droit à l'entraîneur.
On a le droit à l'entraîneur. 12, Jonathan. Je répète la question, combien de joueurs ayant participé à la finale ?
Combien d'erreurs on a le droit ?
Deux erreurs.
Jonathan, deux erreurs, tu 12. Deux erreurs, j'ai 14 13, moi. 13, dans ces cas-là.
13, bah va, 14 dans ce cas. 14 pour Daniel. Allez, 5, 4, 3.
Je laisse.
Très bien, 14.
Non, merde. Bon, ok, je laisse.
Bon, allez, Daniel.
Je laisse.
Donc, alors, attends que genre. Bon, Maoulida, Pagis, Ribéry.
Pagis, il a joué ?
Alors, oui, Pagis a joué, titulaire. Maoulida, c'est bon. Ribéry, c'est bon.
Mendy,
c'est bon.
Bay,
c'est bon.
Jérôme.
Oui.
Jérôme aussi, Alonso.
Non. Jérôme Alonso, ça fait une erreur.
Hein ?
Jérôme Alonso est pas là.
Alors, Letizy. Dorasso,
c'est bon.
Calou. Paoletta,
oui.
D'ailleurs, Pancrate.
Il n'y a pas Pancrate. Et il ne rentre pas en jeu non plus. Ça fait deux erreurs.
Plus le droit à l'erreur.
T'as plus le droit à l'erreur. T'en es à 1, 2, 3, 4.
DU,
c'est bon.
Guy Lacombe,
c'est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en manque deux.
Adrien, il peut me donner une réponse ?
Non.
On n'avait pas dit qu'il pouvait.
Non, parce qu'il peut aller sur Internet. Non.
Le but était qu'il pouvait aller sur Internet.
Daniel.
Allez.
Daniel.
Oh là là, c'est fou.
Ça va faire basculer le quiz, ça. Attention.
Aïe, mais...
Allez, 5, 4, 3, 2, 1,
0.
Narbé, ça a été dit. Donc, Narbé, non, c'est pas bon pour Daniel. Donc, du coup, ça donne 3 points à tout le monde. Ce qui fait que Jonathan est à 5 points. Timothée est à 5 points.
Je l'ai dit, Ribéry.
Daniel et Adrien sont à 6 points et Damien est à 2 points. Donc il restait Renato Civelli, Tai Taiwo, Sabri Lamouchi, Loric Sana, Wilson Oruma, Samir Nasri, c'était Jean Fernandez l'entraîneur.
Ouais.
Et du côté de Paris, il y avait David Rosenal, Mario Yepes, Edouard Cissé, Mbami et Paulo César qui
rentre. Moi, Mbami, je l'avais mis, mais je pensais qu'il était déjà avec nous.
Alors, j'ai oublié. On va terminer là, vu qu'il y a 3 équipes qui peuvent gagner, ça va être Damien, malheureusement. T'es à 2 points, ça va être compliqué. On va s'arrêter là-dessus. Dernière question.
5.
T'as 5. Oui, ah oui, pardon, autant pour moi. Bah sérieux, moi aussi, c'est vrai, autant pour moi. C'est vrai. Donc,
ah oui, parce que je vous ai filé le point alors.
Les 3 points.
C'est beau ça, bravo.
Donc tout va jouer sur la dernière question. Elle est assez facile.
Ah, donc je peux jouer.
Allez, Daniel.
Ouais.
Aïe.
Qui est le seul joueur à avoir réussi un triplé dans le temps réglementaire lors d'une finale de Coupe de France ?
Si c'est.
Non, ça arrive.
Ibrahimovic ?
Non.
Benzema ?
Non.
Papin ?
Papin.
Évidemment.
Papin, exactement, face à Monaco. Victoire 4-3, victoire
bien
de Daniel
joué,
et Adrien.
Daniel. Et bien joué, Adrien, du coup. Tu remportes effectivement ce t-shirt de l'After. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur pour cette année à venir et pour ton équipe pour l'Olympique Lyonnais avec ce mercato à venir. Merci beaucoup, messieurs.
Salut, à demain.
D'avoir été avec nous. Effectivement, à demain, ce sera avec Nicolas Jamin. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas ce que dit Abil Chankly. Le football, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est beaucoup plus important que ça.
RMC, 21h minuit. L'After Foot.